tous les podcasts D3-8, radiogrenouille.com.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 10h sur Radio Grenouille et toute cette semaine et jusqu'à la semaine prochaine du 7 au 18 novembre plus exactement, on cause climat sur le 88.8. La COP22, et ouais, on en parle sur le 88.8 à l'occasion de cette conférence sur le climat 22 qui se tient cette année à Marrakech. Alors l'an passé, on a beaucoup suivi la COP21 dans les médias puisque se tenait à Paris, c'était facile. Mais cette année, curieusement, on entend bien moins parler. Alors on s'est dit qu'on allait vous concocter une petite sélection quotidienne de programmes du lundi au vendredi. Vous retrouvez des entretiens issus de nos archives qu'on a réalisés ici sur Radio Grenouille pendant la COP21 avec des camarades également, Radio Campus Paris, Radio Campus Dijon, etc. Vous entendrez des reportages de la radio La Luciole qui se balade en ce moment jusqu'à Marrakech. Radio Parleur, bien sûr, qui est une émission qu'on écoutait hier sur la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Et on s'est dit qu'on allait monter une petite émission comme ça avec quelques acteurs, quelques activistes marseillais qu'on connaît bien ici dans le studio de Radio Grenouille. On va se demander comment la COP22, elle résonne à Marseille. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Joël Martin d'Attaque Marseille. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Tout va bien ?
Bah ouais, on est toujours en action.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici pour parler notamment de ce que vous faites avec Attaque Marseille au quotidien dans la lutte, pas seulement autour des enjeux climatiques et économiques, on en parlera, autour des alternatives, mais également d'un cycle de 3 films qui vont être projetés ce jeudi 10 novembre, également le 11 et le 12 novembre à Marseille. Projection débat organisée avec Alternativa et les Colibris, 3 films. Demain, Conspiratie, et le dernier se nomme... Nature, nouvel Eldorado de la finance. Voilà, on en parlera avec vous, Joël Martin. À mes côtés également, Pascal Henquin de Focus 21. Salut Pascal.
Bonjour Simon.
Tout va bien ?
Tout va bien.
On entend souvent ta voix pour participer avec l'équipe de Métamorphose qu'on entend tous les mois ici sur Radio Grenouille avec la plateforme. Avec Focus 21, vous êtes en train de mener une campagne de crowdfunding pour suivre le financement de documentaire Irintzina, le cri de la génération climat. Cette fois-ci, j'arrive bien à le prononcer. Irintzina, c'est un documentaire, on va y revenir, documentaire qui revient un peu sur l'aventure Alternativa. Vous avez suivi le grand voyage, le grand Tour de France d'Alternativa qui s'est conclu l'année dernière durant la COP21, un grand village Alternativa durant la COP21 à Paris. Le financement est toujours en cours, évidemment les liens sont sur radiogrenouille.com. On va discuter vraiment de la COP22 à Marseille. Par téléphone, Wolfgang Kramer, écologue et géographe, il est à Aix-en-Provence à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. Bonjour Wolfgang.
Bonjour. Merci
d'accepter notre invitation. Et c'est vrai que avec vous, ça va être sympathique un peu de revenir un peu sur quels enjeux climatiques peuvent traverser Marseille et notre chère région PACA. Vous êtes sur Radio Grenouille. Alors, Joël Martin, je l'ai dit, ce jeudi 10 novembre à l'œuvre allemand, 41 rue Saint-Savournin, vous projetez avec Attaque, les Colibris et Alternativa le film Demain, film sorti en 2015, César du meilleur documentaire. Pourquoi avoir choisi ce film qui présente entre autres des solutions pour résoudre les crises écologiques, économiques et sociales qui nous entourent?
En fait, on va passer 3 films. Hein, donc demain, ce sera ce soir. Ensuite, après-demain, le 11 novembre, on va passer Cowspiracy. C'est un peu pour attirer l'attention sur les conséquences climatiques de la consommation de viande et de l'élevage industriel qui, en fait, bouffe beaucoup de territoires agricoles et qui dégage beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, on n'en parle pas assez. cet aspect. Alors, on l'abordera donc le 11 novembre à Vidéodrome, au cours Julien. Maintenant, pourquoi avons-nous voulu commencer par le film Demain ? C'est pour être montré résolument que les citoyens ont des solutions. C'est un film sur toutes sortes de solutions locales contre la dégradation du climat.
A été publiée il n'y a pas très longtemps une information qui annonce la fin possible de notre humanité.
Climate change, destruction of the Earth's surface and population growth are leading us to a tipping point.
Il y a 3 ans, Cyril est venu me parler de cette étude. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendraient à manquer dramatiquement.
Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau.
On est parti aux 4 coins de la planète pour trouver les femmes et les hommes qui proposent des solutions à tous ces problèmes.
We didn't start with shall we save the planet because that was too grand. We just start with where we are.
Partout, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie.
Faisons tout à la main sur un tout petit territoire. Tu peux produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire 10 fois plus grand.
San Francisco has an 80% landfill diversion rate. Everything is reduced, reused, recycled or composted.
Ces personnes écrivent une nouvelle histoire. Elles nous disent qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il faut nous bouger. Maintenant.
Now we vote, we govern.
Voulu mettre toutes ces solutions bout à bout, comme un puzzle, pour tenter de raconter une nouvelle histoire et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain.
In Totnes, we have a £21 note. Kind of...
21.
Because you can. Why not?
Demain, film de documentaire de Cyril Dion et de Mélanie Laurent, ce soir, projeté ce soir, jeudi 10 novembre à 19h41.
À 20h.
Saint-Savourdin, à 20h. On viendra pour l'apéro à 19h, Joël.
C'est ça, tout à fait, oui.
C'est comme ça que ça va le faire. Projeter ce film demain qui montre d'autres façons un peu de concevoir la vie, tout simplement, dans le monde entier. Moi, j'avais envie de revenir avec vous, notamment, Joël, sur d'autres façons que vous êtes en train d'explorer ici même à Marseille avec tout le réseau et tous les militants qui composent cette jolie ville.
Je voudrais dire que depuis 2013 existe au niveau national en France le collectif pour une transition citoyenne où différentes associations et entreprises solidaires se mettent ensemble pour fonctionner vraiment en réseau, pour s'entraider, pour faire une sorte d'écosystème de la transition. Et vous savez, pendant longtemps, les altermondialistes ont dit un autre monde est possible. Et maintenant, on peut dire un autre monde est en marche, est en train de se construire. Alors, une information qui est un peu nouvelle sur Marseille. Hein. Il y a le projet d'un super cafouch. Alors, vous en avez peut-être déjà parlé. C'est l'idée de créer un supermarché participatif où les clients, en même temps, soient des abonnés qui donnent 3 heures de leur temps par mois pour participer au travail de ce supermarché. Un supermarché qui s'approvisionne localement afin d'aider à entretenir l'agriculture paysanne locale pour diminuer les parcours qui crachent du CO2 et puis pour garantir la sécurité alimentaire à l'avenir. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un groupe, c'est surtout des jeunes hein, qui préparent ce super cafouch. Le modèle existe, il fonctionne déjà à New York, il y en a un qui fonctionne à Paris. Hein. Et donc voilà, c'est
là,
pour
ce
dire
sera,
que...
Ça sera à Marseille, là.
Où ce sera à Marseille, il n'y a pas encore le lieu, mais il y a déjà l'association qui se constitue. Et donc, on peut dire que maintenant, la jeune génération, hein, bien sûr, elle vit avec la certitude des grands dangers avec le réchauffement climatique, mais elle vit aussi en participant à un monde de solidarité, je veux dire aussi de gaieté, il n'y a pas de raison de rechigner devant les côtés amusants et créatifs de la solidarité. Et j'ai voulu attirer l'attention sur ce super cafouch.
Pascal, tu le connais ce super cafouch?
Oui, j'en ai entendu parler.
Cette expérience. Il y a un mot qui est très important dans ce que souligne Joël, c'est la jeunesse.
Alors la jeunesse, oui. Ce qui est intéressant aussi peut-être dans ce cafouch, c'est que c'est une conjonction entre des gens qui ont des moyens, c'est la génération d'avant nous en fait, on va dire, et nous on a la force vive, je dirais, de l'action, même si dans des actions qu'on mène à Marseille, Il y a même des personnes de 78 ans, 79 ans qui sont avec nous et qui se font mettre en garde à vue. Voilà, donc ça, c'est des problématiques. Après, moi, ce que je voulais, là où je voulais revenir aussi, en rebond au film Demain, dont on a entendu la bande annonce tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, c'est aux citoyens en fait de se lever, et c'est à cette génération dont nous faisons partie de prendre la responsabilité de, à la fois développer en effet les alternatives, c'est ce que prône un peu le mouvement Alternativa, mais c'est aussi de développer tout ce qui, enfin, de dénoncer tout ce qui nuit en fait au changement, au climat. Donc c'est bloquer aussi les multinationales qui continuent parce que eux, ils ont des lobbies pétroliers, par exemple le lobby pétrolier énorme, donc ils ont énormément de moyens pour pouvoir faire ça, de dénoncer aussi l'évasion fiscale. Donc c'est pour ça que s'est développé un mouvement collectif qui regroupe plusieurs structures, qui s'appelle ANV COP21, où on organise des actions non violentes dans les banques. Voilà. Et après, pour dénoncer l'évasion fiscale, et cela vient de reprendre. Mmh. Et en fait, dans notre film Irensina, on montre en quoi peut consister l'engagement aujourd'hui des jeunes, des moins jeunes, etc. Et comment l'engagement citoyen peut agir, parce que on a bien conscience que ce n'est pas nos politiques, et encore moins ceux qui sont élus récemment, qui vont pouvoir changer. Eux, au contraire, pour moi, ils seront jugés un jour, sans doute, pour crime contre l'humanité. C'est simple. Quand Godin interdit d'organiser un village Alternativa, et que son directeur de cabinet, d'un trait de plume, Claude Bertrand, dit « Non, c'est trop emblématique pour la ville. » Enfin, ce lieu est trop emblématique. Ça veut dire qu'il laisse aucune place à l'initiative des citoyens. Si ce n'est pas contrôlé par eux, ils l'autorisent pas. Et on le fait quand même, on est obligé de désobéir en fait. On est obligé de désobéir puisque il y a un danger pour notre génération et les générations, pour nos enfants en fait. C'est même pas dans 10 ou 15 générations. Mmh. Eux, ils s'en fichent, ils ont détruit en fait la planète. Donc on y contribue aussi, on est d'accord avec notre mode de vie. Mais c'est ce qu'on a envie de raconter en fait dans ce film, Irensina, c'est comment aussi on peut s'engager, comment on peut agir, à la fois en développant les alternatives et à la fois en disant stop, on n'en veut plus de votre monde, mmh, et construisons autre chose. Dans la joie, dans la solidarité, avec des nouvelles valeurs. Voilà, c'est...
Irensina, le cri de la génération climat, on s'écoute un extrait d'une des bandes annonces.
L'envie aux énergies fossiles, ouais. Nous sommes à l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières, qui défend les intérêts des climaticides de l'industrie du pétrole. Nous sommes ici pour fêter les 650 milliards de dollars de subventions annuelles publiques pour les énergies fossiles.
Il n'y a pas de problème, je vais vous demander quand même de couper la caméra.
Une des bandes annonces de ce documentaire Irensina, en cours de production, soutenez Irensina, produit par vous et par Focus 21. Les liens évidemment seront sur radiogrenouille.com. Pascal, on était où là dans cet extrait sonore?
On a filmé en fait une action non violente où on intervenait, enfin les militants intervenaient dans l'UFIP, l'Union française des industries du pétrole. Donc c'est le lobby français qui regroupe Total, Engie, etc. Donc je vous donne des très beaux bureaux dans le 16e arrondissement. Et ces gens-là, ils font en sorte que les textes de loi soient favorables. Il suffit d'aller faire un tour sur leur site. Ils n'ont même pas de Facebook. Enfin, ils ont une page qui n'est pas à jour. Donc voilà, ils n'ont pas besoin en fait. Eux, ils font du lobbying auprès des grosses structures et puis de l'administration française et des lois et des députés, etc. pour que rien ne change. C'est intéressant de repenser à... J'ai lu récemment un livre qui s'appelle L'or noir. Donc c'est un récit sur le pétrole. Et dans ce récit, déjà dans les années 20, donc du siècle passé, les pétroliers avaient dit on va faire l'accord tel quel. L'accord tel quel, c'était simplement de dire on ne bouge pas nos positions, on garde nos pourcentages chacun sur le marché et on fait en sorte de garder nos marges surtout. Donc on ne se met pas en concurrence, on ne se met pas... On va pas faire de publicité pour le pétrole, il n'y en a pas besoin, puisqu'on va rendre les gens dépendants de ça. Donc voilà, ça fait juste un siècle qu'on est dépendant de ces gens-là. Aujourd'hui, les solutions existent. On peut passer au 100% renouvelable. Ça a été prouvé par l'ADEME, qui a fait des études là-dessus au niveau de l'électricité. Sauf que, voilà, il n'y a personne qui en parle, ou très peu. Alors, il y a des films comme Demain qui font un carton. Mais aujourd'hui, il faut aussi que ça passe dans les médias, il faut que ça passe dans les cinémas, il faut que ça passe aussi dans les écoles. Que dire, on peut changer ce monde, on peut le faire, mais il faut aussi arrêter de regarder ces chaînes de télé qui sont payées par des multinationales, notamment celles de l'armement, qui ont évidemment un intérêt à ce qu'on vive dans la peur. Voilà, faut sortir de cette peur et c'est intéressant en fait de leur dire arrêtez vos bêtises là, c'est même pas des bêtises là, c'est des crimes, hein. Donc le réchauffement climatique, c'est 200 millions de personnes, il y a 3000 personnes qui meurent en ce moment en Méditerranée parce qu'ils fuient les sécheresses qu'il y a en Syrie et
réfugiés climatiques,
voilà, donc c'est des crimes, là ils sont concrets. On n'a pas encore de corps qui arrivent sur les plages de Marseille, mais ça va pas tarder.
Il y a déjà des gars qui se sont noyés en sautant d'un bateau, hein, des réfugiés qui venaient de l'autre côté. Hein. Pas encore beaucoup, mais non, le problème est
ouais,
réel.
Mais ils arrivent, enfin, les corps, on ne les voit pas encore, mais voilà, ils vont arriver, ils arrivent voilà. Sur nos côtes. Et à côté de ça, on a des politiques qui veulent mettre des murs sur nos frontières, alors que ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire, c'est comment on peut accueillir.
Et on a les moyens d'accueillir. Nous sommes une société pluriculturelle, on peut accueillir des gens.
Joël Martine, pour revenir, j'aimerais qu'on rebondisse sur les actions non violentes. On vient d'écouter justement à oui. Paris. Sont organisées des actions non violentes ici à Marseille, et d'ailleurs il y en avait une très récemment.
Oui, c'est ça, mardi avant-hier. Donc les associations qui sont membres de Action non violente COP21, dont ATTAC, dont Alternativa, dont
les
Amis de la Terre. Oui, c'est ça. Bon, on était une soixantaine, on a occupé la BNP. Banque
nationale,
on nique la planète, ouais. Hein, c'est un peu ça leur surnom qu'on leur a donné, hein. Et
marche,
bien sûr en disant qu'on a besoin d'argent pour lutter contre le réchauffement climatique et pour aider les pays pauvres à se protéger du réchauffement climatique, parce qu'il y en aura tout, il y en aura forcément, même s'il faut qu'on arrive à le limiter autant que possible, hein. Et cet argent, il existe. Et nous dénonçons l'évasion fiscale. Hein. Et on a déjà eu quelques succès. Hein. La BNP, on les avait harcelés en leur disant « Vous envoyez votre argent, mais en fait c'est notre argent, notre argent que nous mettons à la banque, vous l'envoyez aux îles Caïmans. » Et aux îles Caïmans, ils ont juste un bureau, ils avaient juste un bureau pour organiser l'évasion fiscale, parce que les impôts sur le capital n'existent pas là-bas. Et à force qu'on leur fasse la publicité là-dessus, l'an dernier, ils ont accepté de se retirer des îles Caïmans. Mais ils sont quand même présents dans à peu près 180 paradis fiscaux à travers le monde. Hein, c'est les champions de France. Hein. Donc on va continuer. Hein. Et c'est pourquoi nous avons fait cette occupation mardi. On leur a rendu une des chaises qu'on leur avait réquisitionnée il y a un an pour les féliciter d'avoir fait un tout petit premier pas en se retirant des îles Caïmans. Je veux dire, on n'oublie pas quand même de leur tendre la main gentiment. Hein. Et je voudrais dire aussi, par rapport aux solutions, Les gouvernements, après la COP21, ils avaient dit « c'est important, il faut qu'on limite le réchauffement climatique plus de degrés en moyenne sur Terre », et a été déclaré que c'était l'urgence. Hein. Face à l'urgence, selon la Constitution française, un citoyen a le droit d'agir si les autorités officielles n'agissent pas. Hein. Et c'est ce que nous faisons, y compris en faisant quelque chose qui est un délit. Par exemple, voler une chaise, c'est un délit. Mais pour montrer que nous sommes prêts à faire des petits délits, parfaitement non violents mais déterminés, pour mettre en accusation ceux qui font des grands délits, qui sont des crimes climatiques. Mais en même temps, ce qu'on voit, alors dans la COP22 à Marrakech, ce qu'on voit, c'est que les multinationales sont en train de nous vendre des pseudo-solutions. Hein. Tout à l'heure, là,
c'est,
Cyril Dion, c'est
le nouveau marché qui se met en place.
Voilà, Cyril Dion, dans la bande-annonce du film Demain, hein, je ne sais pas si c'était lui ou quelqu'un d'autre, disait grâce à une agriculture, petite agriculture, avec du travail manuel, avec beaucoup de monde sur la terre, sur le sol, hein, on peut produire plus que l'agriculture industrielle qui est essoufflée parce que les engrais épuisent le sol, etc. Et puis parce que le pétrole, de toute façon, il faut qu'on arrête. Hein. Donc on peut produire plus. Or, qu'est-ce que proposent les multinationales pour l'Afrique ? Ce sont des outils financiers pour concentrer l'agriculture, pour créer plus d'agriculture industrielle. Ils proposent aux paysans africains des outils informatiques pour prévoir le climat, alors que les paysans africains ont besoin de justice avant tout, au niveau des prix qu'on leur paye, hein, de façon à rester sur place, continuer à faire ce qu'ils savent faire, nourrir la population. Donc voilà, c'est un enjeu de solidarité et nous, si vous voulez, ce que nous faisons, c'est à la fois aider la construction des alternatives. Alors, j'ai parlé du super Cafout, je pourrais parler du plan alimentation territoriale qui commence à se mettre en place avec des professionnels, y compris avec des pouvoirs publics, au niveau de la PACA et des Bouches-du-Rhône. Donc, il y a cet aspect positif, mais il y a aussi un aspect agressif. On ne veut pas se laisser bourrer le mou par des gens qui sont pleins de fric et qui nous mènent à la catastrophe. Donc, c'est pour ça qu'on occupe des banques, on est dans la rue et voilà.
Et d'ailleurs, la prochaine action a lieu le 9 décembre à la BNP La Joliette, où les militants vont faire le siège de cette banque, puisque cette banque continue l'évasion fiscale. Donc on annonce publiquement qu'on va faire le siège de cette banque ce jour-là. Et ce qui est intéressant, et puis c'est pas un vol hein, de chaises, c'est une réquisition de chaises, puisque ces chaises ont été rendues à la BNP, enfin ont été rendues plutôt à la justice à l'occasion du procès Cahuzac, voilà, qui est un de nos édiles aussi fraudeur fiscal.
Alors messieurs, pour continuer, vous vouliez rajouter quelque chose ? Tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, moi je pense que ce serait intéressant aussi de parler concrètement justement avec notre invité par téléphone,
bien sûr,
de où on en est en PACA, parce que quand on entend Trump qui dit, Trump, donc le nouveau président des États-Unis, qui dit le réchauffement climatique, j'y crois pas, regardez, il fait encore froid. Enfin, c'est quand même hallucinant d'entendre une bêtise pareille. Ouais. Voilà, donc place aux scientifiques, je pense.
Voilà, juste avant de vous retrouver, Wolfgang Kramer, merci d'être resté à l'écoute. Justement, si on parle un peu de la stupidité des réactions souvent politiques. Il y en a une de notre première administrée ici à Marseille que je voulais vous faire écouter et réagir.
Oh, vous savez, on a fait plein de pistes cyclables, notamment à Marseille, et certaines d'ailleurs, le tribunal administratif nous les a fait annuler. En réalité, dans la deuxième ville de France, nous subissons un peu moins la pollution qu'à Paris, parce que vous savez bien que de temps à autre, nous avons un coup de Mistral qui chasse toutes les pollutions et qui nous facilite aussi la vie des Marseillaises et des Marseillais. Nous n'avons pour l'instant jamais franchi des barrières aussi importantes que dans la capitale.
Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, c'était en novembre 2015 sur l'antenne, sur l'antenne de France Inter, dans la matinale la plus écoutée de France, radio nationale, radio publique. Jean-Claude Gaudin affirmait donc que jamais la pollution n'avait atteint des pics aussi forts que ceux de la capitale. Dommage pour lui, selon l'association Robin des Bois, Marseille baigne dans l'air le plus irrespirable de France. La concentration moyenne de particules fines s'établit ici à 31,8 picogrammes par mètre cube, quant à Paris, c'est 27. Voici Wolfgang Kramer. Peut-être un petit mot sur ce qu'on vient d'entendre. Là, Marseille n'est pas polluée. Heureusement qu'on a le Mistral, en fait, c'est ça ?
Ouais, c'est effectivement ahurissant d'entendre ce genre de discours et ça fait peur parce que ça montre que le dirigeant ici ne voit pas les opportunités qui existent carrément pour eux de faire quelque chose du bien. C'est à mon avis ça c'est pas quelque chose qui dérangerait la population marseillaise si on fera quelque chose pour la qualité d'air. C'est bien si ça aussi ça contribue à la lutte contre le changement climatique, mais déjà tout le monde, il suffit de se promener dans la ville de Marseille et d'ailleurs Aix-en-Provence pareil, un jour où il n'y a pas de Mistral, on comprend bien, on le sent, on n'a même pas besoin de mesures, on comprend bien qu'il y a un problème sérieux avec le trafic qui est avec l'industrie qui nous fait une pollution d'air importante. Donc je comprends pas qu'on ne se sert pas de cette opportunité de faire quelque chose du bien.
Alors Wolfgang Kramer, je rappelle que vous êtes écologue et géographe à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale à Aix-Marseille Université. Quelle grande thématique cette COP22 pourrait dans quelle thématique cette COP22 pourrait résonner sur notre territoire Marseille et Aix-en-Provence et la métropole et pourquoi pas même la région PACA. On vient de parler de la pollution de l'air. J'imagine qu'on peut également parler de la pollution en Méditerranée.
Il faut se souvenir que le succès de la COP21, c'était la reconnaissance des chefs d'État ou aussi du chef d'État français que c'est pas seulement les gouvernements qui peuvent régler la chose, c'est une grande mobilisation qu'il faut à tous les niveaux de la société, aux acteurs politiques régionaux et aussi au niveau des consommateurs. Et c'était une grande, je dis, un esprit positif qui sortait de la COP21 et maintenant, pour moi, l'opportunité de la COP22 et des futures COP, il faut se rendre compte, c'est une conférence comme ça par an, c'est de nouveau, comme vous le faites ici dans cette émission, mettre sur le tableau toutes les opportunités qu'on a pour faire quelque chose, pour avancer. Évidemment, il faut critiquer que le gouvernement ne fait pas les choses qu'ils ont promis, mais en même temps, c'est notamment les municipalités qui peuvent faire beaucoup de choses, exactement le contraire à ce qu'il vient de dire Monsieur Gaudin, favoriser les transports à pied et en vélo. C'est une démarche qui peut se vendre à la population beaucoup mieux au moment d'une COP où tout le monde comprend dans les médias qu'on a un grand problème avec le climat.
Pascal.
Moi, j'aimerais bien raconter quand même la petite fable de la grenouille qu'on plonge vivante dans une casserole d'eau froide et puis qui, au fur et à mesure, commence à chauffer. L'eau est de mieux en mieux. Sauf que, aujourd'hui, à la fin, elle cuit, la grenouille. Donc, on en est là, je pense. J'en discutais début septembre avec une élue de la mairie de Marseille en lui disant « Vous avez déjà connu une canicule fin août à Marseille ?» Ah ben non, pourtant bon, elle avait un certain âge. Voilà, on commence à connaître des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents. Et l'été, l'hiver, les gels locaux au niveau méditerranéen, Wolfgang du Grec donc pourrait le rappeler, mais c'est de plus en plus aussi, il y a de moins en moins de pluie, de moins en moins de gel. Et ça pose des graves problèmes sur l'agriculture. Le réchauffement climatique aussi engendre en fait de l'évaporation plus importante au niveau de la Méditerranée, donc des cycles, je dirais, de plus importants du fait de l'évaporation sur le climat. Il y a des épisodes extrêmes qui sont de plus en plus réguliers, donc des conséquences aussi sur l'habitat, sur les routes, sur tout ça. Donc on est en train de le vivre en fait.
Je vous entends approuver Wolfgang derrière. Vous avez aussi votre regard scientifique, j'imagine, sur ce changement vraiment très concret qui nous entoure.
Ouais, une chose qui m'a surtout frappé à l'analyse post-2003 après la grande canicule, c'est que la société n'est pas quand même touchée de la même façon dans toutes ses couches, quoi. Il y a sûrement particulièrement les gens défavorisés, les vieux desquels on s'en occupe pas trop, les enfants. C'est cette population-là qui est touchée par des grosses canicules, pareil maintenant qu'en 2003. Et c'est aussi beaucoup plus importantes les populations des villes à l'autre côté de la Méditerranée qui sont touchées. Donc c'est très facile pour un décideur dans un bureau bien climatisé avec sa voiture climatisée de s'exprimer que les canicules ce n'est pas grave. Pour une grande part de la population, c'est un problème sérieux pour la santé et en combinaison avec la pollution de l'air, ça contribue à une mortalité, morbidité très importante dans la population. On ne peut pas nier ça.
Comment elle va la Méditerranée ici, Wolfgang Kramer?
Comment elle va,
ouais.
Si on parle de la mer, de la Méditerranée, elle aussi, elle est en train de se réchauffer, pareil que l'air. Là aussi, on voit une combinaison de plusieurs problèmes. Effectivement, là, si on regarde les ressources pour la pêche, par exemple, c'est surtout la surpêche qui est le problème actuellement et pas le réchauffement. Mais le réchauffement, s'il continue de la façon comme il fait maintenant, il va falloir être un facteur de plus qui met en cause urbanisme en mer. Et si on ajoute à cela, qui est très réel, le problème de l'acidification de la mer, ça veut dire que le CO2 dans l'atmosphère, il rend plus acide la mer. Et ça commence à poser un véritable problème surtout pour les coquillages. On voit que le réchauffement, c'est pas seulement une température qui est un peu peut-être moins désagréable, c'est un réel risque pour la biodiversité et pour la production de notre nourriture.
Et si on y rajoute les grands paquebots de croisière, il y en a plus de 500, hein, qui débarquent à Marseille ici, qui rajoutent aussi une pollution considérable. Pascal,
il y a aussi 30% des yachts de luxe du monde qui sont en Méditerranée, donc nos milliardaires sont en Méditerranée majoritairement. Alors ça fait du boulot, hein, c'est sûr, à la Ciotat et autres, on se frotte les mains. Mais je pense qu'il
faut déplacer un peu le regard. Joël ?
Oui, là encore, je dis que nous avons, tout le monde a une partie de la solution. Hein. Par exemple, par rapport au fait que bon, le climat méditerranéen, il y a des alternances de sécheresse et de pluies très fortes. Mais tout ça est accentué avec le réchauffement climatique, comme on vient de le voir. Hein. Mais il y a des éléments de solution. Par exemple, entretenir le couvert végétal.
C'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien.
Remettre de la végétation, y compris à l'intérieur des villes, pour capter de l'humidité pour souffrir moins du réchauffement climatique. Hein. Et ça suppose d'aider des agriculteurs à s'établir juste en lisière des villes ou dans certains secteurs verts de la ville. Ça demande une politique décidée au niveau de l'eau. Hein, économiser l'eau pour qu'une partie de l'eau reste dans les sols.
Bétonner.
Oui, voilà, c'est cette question-là. Hein. Donc il y aurait tout un ensemble de solutions qui pourraient être mises en œuvre avec, je dirais, une démocratie plus concrète. Hein, qu'on écoute les citoyens, qu'on donne des responsabilités aux citoyens. Alors ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais des associations s'y attachent. Hein, par exemple, l'association Terre Fertile qui lutte pour l'installation de paysans et contre le bétonnage. Hein. Donc voilà, c'est tout cet effort collectif.
Tout ce mécanisme.
Voilà, et qui a été symbolisé un peu par le vélo tandem de Alternatiba. Hein. Tout le monde pédale un peu, mais globalement, ben, on avance et puis on espère qu'on crée un avenir. Voilà.
Pascal, tu voulais rajouter ?
Non, juste peut-être un appel à soutenir à nouveau notre film pour qu'on fasse connaître tout ça, c'est important. Irinsina, le cri de la génération climat, pour nous, c'est un défi qu'on a démarré il y a 2 ans, et plus il y aura de gens qui le verront, plus il y aura de gens qui se mobiliseront aussi. C'est notre ambition, c'est que voilà, le mouvement grandisse. On a raconté l'histoire depuis le début, depuis Bayonne, et ensuite aujourd'hui on a besoin d'être des milliers en fait sur des actions, on a besoin d'être des milliers dans les alternatives pour qu'elles se développent et devenir et montrer que c'est une force, et sachant qu'il y a des gisements d'emplois énormes, ça a été évoqué, mais c'est plutôt gratifiant de travailler dans ce domaine-là aujourd'hui. Voilà.
Merci Wolfgang Kramer par téléphone de nous avoir écouté, de nous avoir éclairé un tout petit peu sur ce qui se passe ici dans notre région. Merci beaucoup.
Merci.
Depuis Aix-en-Provence. Merci à vous tous les deux, messieurs. Pascal, du coup, le documentaire Irinsina, les liens seront sur le site Radio Grenouille pour soutenir le documentaire. Joël
Merci.
Martine d'Attaque Marseille, je rappelle que ce soir, demain est projeté à l'œuvre allemande. C'est pas facile. 41 rue Saint-Savournin. Le film demain sera projeté. Vendredi 11 novembre, c'est Cowspiracy, sera direction le Vidéodrome du Cours Julien. Et samedi 12 novembre, également au Vidéodrome, Nature, le nouvel Eldorado de la finance. La COP22 continue tous les jours sur Radio Grenouille. D'ici la semaine prochaine, ce seront des émissions depuis le Maroc. Ce ne sera pas nous qui les produirons, ce sera des camarades, évidemment. Merci Jean-Baptiste Humbert à la réalisation. Merci messieurs.
Merci Simon.
Merci.
Vous êtes bien sur Radio Grenouille, branché sur 88.8. c'est la grenouille sur les ondes.
Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.